Economica, Anne Isla.
Jacques Lavergne, bonjour.
Economica, ou comment rendre accessible à tous les faits et les idées économiques.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Eh bien voilà, Economica redémarre. Anne Isla nous a rejoint et intégré l'équipe avec un nouveau générique qui est de son choix. Alors Anne Isla, peut-être pouvez-vous dire d'où vient ce générique que personne n'avait jamais entendu jusque-là?
Oui, c'est une musique originale d'un jeune musicien qui s'appelle Emir Anklash et ce morceau s'appelle You Know.
Voilà, donc ce sera notre générique de début et de fin. Vous en prendrez l'habitude. Alors, citation du jour, parce que sur Economica, on commence toujours par une citation. Si tu n'espères pas l'inespéré, tu ne le trouveras pas. C'est pas jeune, c'est d'Héraclite, et ça nous ramène 4 siècles avant Jésus-Christ. Mais nos glorieux prédécesseurs avaient déjà en eux beaucoup de sagesse. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur un vaste sujet qui est dans toutes les bouches, qui est mis à toutes les sauces par des commentateurs variés et divers, sur lesquels nous avons entendu tout et son contraire, la dette. On va essayer de démystifier ce que veut dire ce mot et qu'est-ce qu'il y a derrière avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer ou peut-être que vous n'imaginez pas, mais que Anne Isla va décoder pour nous. Et donc, nous allons en décrire les contours, nous allons en décrire les effets, mais auparavant, quelques brèves. Alors, première brève, vous l'entendez certainement un peu partout, soit chez les commerçants, soit à la radio-télévision ou autre, si jamais vous l'écoutez encore. Les difficultés de recrutement des entrepreneurs paraissent assez importantes. Les jeunes qui arrivent sur le marché du travail subissent de plein fouet la crise et l'envolée du chômage. Je vois que notre jeune technicienne Tiffaine opine du bonnet. Donc une envolée du chômage provoquée bien sûr par la crise sanitaire de la Covid-19, mais pas que. En 2020, le taux d'emploi, donc le nombre de personnes en emploi rapporté à la population des 15-25 ans a reculé de 1,2 point, alors qu'il a diminué seulement de 0,4 point pour les 25-49 ans. Trois quarts des 700 000 destructions d'emplois enregistrées au premier semestre 2020 concernent les contrats durée déterminée, les fameux CDD, et les contrats intérim qui, on le sait, sont surtout le fait des jeunes. En outre, et après une étude de l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC, en mai 2021, 25% des jeunes diplômés 2019, donc Bac plus 5, étaient encore en recherche d'emploi en janvier, donc c'est tout à fait catastrophique. Et parallèlement, comme je le disais en commençant, les entreprises peinent véritablement à recruter. Selon le dernier baromètre de l'APEC, près de 8 entreprises sur 10 prévoient de recruter au moins un cadre au troisième trimestre 2020 et ils anticipent des galères pour trouver le bon candidat. Alors peut-être Anne, comment on peut expliquer le fait qu'il y ait des gens qui cherchent du travail, le fait qu'il y ait des employeurs qui, eux, cherchent des employés qu'ils n'arrivent pas à trouver, on n'arrive pas à rapprocher la demande et l'offre?
Eh bien, je dirais qu'on n'arrive pas à rapprocher la demande et l'offre. C'est bien la traduction de la vision que l'on a du marché du travail, et qui est une vision qui est complètement, à mon avis, erronée, parce que le travail n'est pas une marchandise. On raisonne en ces termes-là depuis une trentaine d'années, le marché du travail, l'offre et la demande de travail. Et peut-être faudrait-il arrêter de penser en ces termes-là et de réfléchir plutôt à quel est le compromis social qu'on pourrait mettre en œuvre pour arriver à résoudre ce problème. Parce que les jeunes qui cherchent du travail, ce ne sont pas des marchandises qui vont sur un marché du travail. Et cette expression du marché du travail, je trouve que c'est une expression qui est absolument inique, et qui traduit bien l'impasse dans laquelle on va, et on s'engouffre et on continue à aller vers le mur tant qu'on parlera, à mon avis, de marché.
Alors est-ce que le simple changement sémantique va résoudre la question?
Non, le changement sémantique, ça ne va pas résoudre la question, mais le vocabulaire qu'on utilise, la rhétorique qu'on utilise, traduit bien ce que l'on passe, comment on envisage les choses. Et quand vous avez des hommes politiques, par exemple, qui vont dire, il faut faut adapter le marché du travail, il faut adapter le droit au marché du travail, c'est bien qu'on est dans une optique où on ne se préoccupe pas d'êtres humains qui travaillent, mais plutôt de marchandises qu'il va falloir placer ici ou là en fonction des besoins. Et on voit bien que c'est un échec. Ça fait 30 ans que l'on fait comme ça, ça fait 30 ans que c'est un échec, et c'est de pire en pire. Donc la sémantique ne résoudra pas rien, certes, mais la sémantique traduit la vision que l'on a des choses.
On sait aussi que le salariat, c'est ce qu'on appelle, c'est horrible, la variable d'ajustement. Quand on a besoin de retrouver quelques marges, eh bien... On jette les gens, on dégraisse, c'est un mot qui est aussi totalement ignoble.
Oui, on dégraisse, d'autant qu'on est aujourd'hui dans un capitalisme financiarisé, donc où le pouvoir est détenu par la finance, le pouvoir et le poids est détenu par la finance, et il y a une... ça fonctionne bien sûr l'économie, hein, toute l'économie fonctionne sur des conventions, sur des croyances. Et il y a une convention sur les marchés boursiers qui dit que pour valoriser vos actions, eh bien, on va choisir comme ajustement le travail. La valorisation boursière passe par la baisse de la masse salariale, notamment. Et ça va poser un problème, bien sûr. Donc là aussi, il va falloir revenir sur cette vision que l'on a de l'économie et sur cette hiérarchie aussi, hein, que l'on a de l'économie. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est bien... que l'économie n'est plus au service des êtres humains, comme, me semble-t-il, ce devrait être son rôle, mais que c'est plutôt les êtres humains qui sont au service de l'économie et qui, elle-même, est au service de la finance.
Il y a un renversement de paradigme à opérer. Mmh. Alors, on dit le Covid-19 est responsable. Le Covid-19, il a certainement aggravé les choses, mais il n'en est pas responsable. C'est un malaise bien plus ancien.
Oui, bien sûr, c'est un malaise bien plus ancien, mais le Covid-19, c'est un révélateur de la crise multiforme où l'on est aujourd'hui, qui est une crise du capitalisme, qui est une crise sociale et qui est une crise environnementale.
Et démocratique.
Et démocratique, bien sûr, qui est une crise aussi démocratique. Donc le Covid-19 arrive, ou la Covid-19, peu importe, arrive à... et traduit notamment la crise environnementale, la crise sanitaire dans laquelle on est. Et bien sûr, c'est un révélateur.
Alors, vous m'ouvrez la porte sur la deuxième brève que je voulais évoquer, la sortie de crise. Il semblerait quand même que le pire n'a pas eu lieu. Et après 18 mois de pandémie, experts, politiques, il y a beaucoup d'experts maintenant, hein, tout le monde est expert surtout. Sur les réseaux sociaux, tout le monde l'est, ça certain. Et sur les chaînes d'information en continu, il y a des professionnels de l'expertise. Je ne sais pas si on peut les croire, à mon avis, non. Mais en fait, tout le monde, expert donc et politique, redoute les répliques du séisme Covid-19 sur l'économie française. Hein, si on emploie le mot de séisme, on peut employer celui de réplique qui va avec. Et la fin de la période estivale est quand même marquée aujourd'hui par un certain optimisme au sein du gouvernement qui nous dit que, eh bien, ça y est, c'est reparti, que tout ça est quasiment derrière nous. Est-ce que on peut dire que l'économie française est bien sortie de la crise ? C'est Mathieu Plane de l'Observatoire français des conjonctures économiques qui pose la question. Il se dit qu'il y a une bonne surprise, ce sont les chiffres du chômage publiés à la mi-août. Le taux de chômage est quasiment revenu à son niveau de fin 2019, c'est-à-dire 8% de la population active selon les chiffres de l'INSEE, alors qu'il prévoyait de dépasser les 10%. Donc, tout le monde crie au miracle, Hosanna, tout va bien. Bon, ça rejoint ce que nous disions il y a quelques minutes. Les créations d'emplois, alors paradoxalement, auraient aussi le vent en poupe, mais surtout le mur des faillites qui était redouté par les observateurs, mur des faillites à mettre entre guillemets, semble s'éloigner. C'est vrai que lorsqu'on fréquente, par exemple, une maison qui n'est pas très loin d'ici, le tribunal de commerce de Toulouse, on vous dit on n'a pas de dossier. Alors, certains qui le regrettent parce qu'ils en vivent, bien sûr, mais c'est pas la marée, même le tsunami que l'on pensait. Alors, est-ce qu'il on peut dire aujourd'hui que ce mur des faillites, pour reprendre cette expression, est derrière nous, alors qu'il va falloir quand même que nous remboursions, que les Français, que les entreprises remboursent les prêts garantis par l'État, et à ce moment-là, on verra véritablement quel est l'état du tissu économique français, sachant que le gouvernement, mais bon, il est certainement optimiste, et puis nous allons rentrer dans la sacro-sainte période électorale, et enfin... élire un président de la République, le gouvernement prévoit une hausse de 6% du PIB en 2021 après la récession de 8% de 2020. Sur cette question, en Islande, commentaire ?
Un commentaire assez bref, je pense. Enfin, la réaction que j'ai envie d'avoir, c'est de dire torturez bien les chiffres et vous leur ferez dire ce que vous voudrez. C'est quand j'entends ce type de discours, c'est un peu ce que je ressens, parce que quand on dit le chômage diminue, oui, peut-être le chômage diminue en chiffres, mais est-ce que aussi on n'a pas beaucoup plus de jeunes qui se déclarent pas chômeurs, qui vont pas...
Bon, oui, c'est comme pour la pauvreté, je sais que voilà. Vous allez intervenir bientôt sur de la pauvreté, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Il y a quand même beaucoup de gens qui échappent complètement aux statistiques, au radar, comme l'on dit maintenant, parce que pour diverses raisons que la sociologie analyse très bien, ben, ils ne vont pas se déclarer. Donc les chiffres sont en permanence et toujours minorés.
Les chiffres sont minorés. Et puis parler en termes de chiffres, il me semble aussi que ça permet d'euphémiser un peu en quelque sorte le discours. On parle de chiffres et on ne parle plus des êtres humains qui sont impactés par ce tsunami, hein, donc pour reprendre votre expression. Le mur des faillites, on verra bien, hein, parce qu'aujourd'hui, il faudrait quand même une boule de cristal assez puissante pour savoir ce que l'économie sera au sortir de cette crise sanitaire. On sait qu'il y a aussi une crise financière qui est là, qui est sous-jacente en permanence. On sait qu'on bricole pour la repousser, hein, qu'on la maintient, qu'on maintient le secteur financier à bout de bras, en quelque sorte. On va en reparler tout à l'heure. Bon, donc, espérons que le gouvernement, que l'optimisme du gouvernement se révèle vrai, mais je n'en suis pas sûre.
Est-ce que le fait que les Français, on a beaucoup parlé du bas de l'aide, évidemment, ils n'ont pas consommé pendant quasiment une année et demie, faute de pouvoir le faire et matériellement, de sortir et de se rendre dans des magasins, il y aura donc un bas de laine, entre guillemets, c'est plus qu'un bas d'ailleurs, extrêmement important. Est-ce que ça, c'est de nature à relancer durablement et de façon véritablement pérenne l'économie, par la consommation donc ?
Par la consommation, mais oui, ça pourrait relancer l'économie, mais il faudrait se poser une question juste après, c'est quelle économie on veut relancer ? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi réfléchir tant qu'on y est, hein, tant qu'on est en pleine crise révélatrice de l'impasse environnementale dans laquelle on va, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi réfléchir à transformer la consommation vers des biens et des services qui ne soient pas coûteux pour l'environnement ? Les agents économiques n'ont pas consommé pendant toute cette période, donc il est possible de moins consommer. Et donc, cette nouvelle consommation pour relancer la croissance, est-ce qu'on ne pourrait pas la réfléchir plus verte, entre guillemets, plus... voilà. C'est un peu comme ça que j'aurais envie de réagir, parce que relancer l'économie pour relancer l'économie, on peut toujours y arriver.
La relancer plus verte, ça veut dire qu'il faudrait que les consommateurs se placent dans cet esprit, dans cette ligne, qu'il y ait une prise de conscience et qu'on leur permette que l'offre qu'on va leur faire soit verte, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui.
Oui, c'est loin d'être le cas, et pourtant on pourrait soutenir par exemple des emplois qui sont verts entre guillemets, enfin, l'aide à la personne par exemple, je pense à cet emploi, mais il y en a certainement beaucoup d'autres, ce sont des emplois qui détruisent pas la planète et qui participent au bien-être de la population, et que les gens pourraient plus consommer et qu'on pourrait plus améliorer, plus porter, etc.
Est-ce que le plus compliqué, c'est pas le changement des mentalités ?
Oui, le plus compliqué, c'est le changement des mentalités. Donc, il faut commencer par quelque chose, petit à petit. Alors, moi, ce qui me fait très peur dans cette période, c'est le problème démocratique, hein. On se rend compte que de plus en plus de pans de la société, que ce soit en économie, mais même ailleurs, sortent du discours et du débat démocratique. Et là, pour changer les mentalités, quand on est dans une situation aussi pauvre en démocratie, je trouve que c'est compliqué.
Donc il faut croire. Si tu n'espères pas l'inespéré, tu ne le trouveras pas. C'est la phrase que j'avais mise en exergue d'Héraclite. Il faut aussi que... Nous menons quand même, et je le dis dans l'émission Arcania, une lutte contre le temps. On vient de dire que les mentalités, c'était très long à changer. On risque de perdre la guerre parce que justement... Le temps ne nous permettra pas d'opérer un revirement qui devrait être normalement assez radical.
Oui, la question, c'est de savoir qui va gagner cette course de vitesse. Est-ce que les mentalités vont changer assez rapidement? Est-ce qu'on va réussir à sortir de ce capitalisme avant que ce soit la planète qui soit détruite?
Bien, question qu'on se pose souvent sur cette antenne, nous sommes très sensibles à ce type de problème. Alors avant d'attaquer le morceau de bravoure qui est la dette, on va souffler un peu, peut-être faire une petite pause avec une musique un peu introductive. Anne, qu'est-ce que vous avez choisi?
Alors moi j'ai choisi une musique de Charles Trenet.
Et surtout un titre.
Et dont le titre est « Péter dette ».
Il était couvert de dettes, de la tête aux pieds. Je lui venais faire la quête, tous ses créanciers. Et pour fuir ses personnages qui le torturaient, un jour sans faire de tapage, il partit pour la forêt. Au pied d'un arbre, il s'endormit, mais pendant qu'il rêvait, un oiseau tout en haut de lui, sur une branche lui chantait. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Il se dit dans son sommeil, c'est la voix de ma conscience qui me poursuit et me surveille. Je vais à mon réveil rembourser ces braves amis qui m'ont fait confiance. Non plus jamais, je me le dis, je ne veux de crédit. Paye tes dettes, disait. Paye tes dettes, l'oiseau. Paye tes dettes, allez. Il y fut tout de go. Quel souvenir, quelle belle journée, quand il régla tout ce qu'il devait depuis des années, jusqu'au dernier sou. Il se défie même de sa chemise, bon, on peut se passer de ça. Dans les bois soufflait la brise, tout joyeux il y retourna. Sous le même arbre il s'étendit, alors le même oiseau vint se poser là tout près de lui, en répétant d'un air idiot. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Paye tes dettes, une, deux. Allez, allez, paye, paye tes dettes, mon vieux. Il faut payer toutes tes dettes. Paye, 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 paye. Dans l'instant même, il comprit que la voix de sa conscience n'était autre qu'un volatile, absurde et obstiné, qui répétait le même cri depuis sa naissance, sans savoir ce qu'il disait, quelle destinée. Paye tes dettes, disait. Paye tes dettes, l'oiseau. Paye tes dettes, oh, assez, ou je vais te fracasser. Et c'est ce qu'il fit à l'oiseau, le coup il tordit. Et le lendemain, dans tous les magasins et auprès de tous ses copains, il fit des dettes, une, deux, il fit des dettes, ah ah, c'est mieux. Puis un soir, devenu vieux, très vieux, il mourut, couvert de dettes. C'est immoral cette chanson-là.
Voilà, c'est immoral cette chanson, dit Charles Trenet, pété dette. Donc, alors nous allons voir si la dette est morale, immorale. Qu'est-ce qu'elle est réellement, Anisla? Première chose, qu'est-ce que c'est que la dette? Il faudrait peut-être, parce que c'est un mot un peu valise, il y a beaucoup d'acceptions possibles. Qu'est-ce qu'une dette? Qu'est-ce qu'un déficit? Comment voilà, hein, la sémantique d'abord.
Alors, si on commence par les questions de vocabulaire pour poser les choses. Donc, bien sûr, quand on parle de dette, on parle aussi de déficit, on parle d'excédent, bon, de recettes, de dépenses. Donc, faisons déjà une première distinction. Donc, un déficit, pour un agent économique, quel qu'il soit, c'est la différence entre ce qu'il perçoit et ce qu'il dépense. Donc, ses recettes moins ses dépenses sur une année. Une dette, c'est ce que l'on doit à un moment donné, c'est-à-dire une obligation qui est monétisée, hein, qui est transformée en argent, qui est inscrite en argent à un moment donné. Bon, alors, à partir de là, on peut nuancer un petit peu. On va parler parfois d'excédent primaire ou de déficit primaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire excédent primaire ou qu'est-ce que ça veut dire déficit primaire? C'est lorsque on mesure ce que l'on doit, mais sans compter les taux d'intérêt. Donc, sans compter ce qu'on appelle la charge. de la dette, c'est-à-dire les taux d'intérêt. Alors, pour vous donner un exemple, l'Italie, depuis 1995, a un solde public primaire positif.
Oui, ça étonne tout le monde.
Hein, sauf en 2009, pendant la crise, bien sûr, mais sinon, est supérieur à celui de l'Allemagne. C'est intéressant de regarder ça, parce qu'ensuite, on va dire, non, on ne mutualise pas les dettes, l'Italie, c'est un pays frugal. Non, mais en réalité, si on regarde vraiment hors de la charge de la dette, hors de taux d'intérêt, eh bien, l'Italie dégage un excédent primaire depuis 1995.
Mais si elle le dégage, peut-être, Anne, c'est parce qu'avant, elle a souscrit des dettes qui lui a permis de le dégager.
Oui, donc alors ça en amont. Ça veut dire, cette remarque, ça veut dire que la dette n'est pas toujours négative. Si la dette est conçue, mais ça je comptais y revenir un peu plus tard, si la dette est conçue comme un investissement, alors... C'est bénéfique, c'est une dette positive. Le problème de la dette, c'est lorsqu'elle ne va pas servir l'investissement, lorsqu'elle ne va pas servir à l'intérêt général, lorsqu'elle ne va pas servir la société. Et ça arrive fréquemment, malheureusement. Alors, tant qu'on est dans le vocabulaire, je voulais aussi préciser une petite convention que l'on a. Vous l'avez d'ailleurs entendu. En général, on mesure la dette ou le déficit, en fonction du PIB, c'est-à-dire de la production intérieure brute, tout ce que l'on a produit. Le PIB, c'est la mesure de la croissance. Donc ça veut dire que plus il y a de croissance, moins il y a de dette. Donc le gouvernement annonce une croissance de 6%. On entend derrière, enfin moi j'entends derrière, le gouvernement est en train de dire que la dette va diminuer. Quand je traduis un petit peu. Hein. Donc on a cette convention de mesurer toujours la dette par rapport au PIB ou le déficit par rapport au PIB. D'ailleurs, il y a deux règles européennes qui sont momentanément suspendues, mais qui sont toujours là, qui disent il ne faut pas que les États aient plus de 60% de dette par rapport au PIB ou 3% de déficit par rapport au PIB. Alors ça aussi, c'est une convention parce que, un autre exemple, en 2009, la dette en pourcentage du PIB de la Grèce était de 110%. Celle de l'Allemagne et de la France autour de 77%. Mais en volume, si on regarde en volume, la dette de la Grèce ne s'est levée qu'à 250 milliards d'euros, alors que celle de la France à 1150 milliards et celle de l'Allemagne à 1450 milliards. Donc en 2009, on aurait pu, vu le volume de la dette grecque, faire preuve d'un peu plus d'empathie et de coopération entre États. C'était relativement facile à absorber. On a pris 3 ans pour le faire. La dette grecque a continué à exploser.
Il y a un très beau film là-dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu, dont on a rendu compte ici. Ça y est, le nom ne me revient pas, mais avec un réalisateur grec que j'ai eu le grand mon plaisir et honneur de rencontrer. Et c'est vrai que son film montre bien dans quelles conditions se sont passées les négociations, notamment avec les Allemands, et c'est glaçant, véritablement
oui.
Glaçant.
Il y a un romancier grec aussi qui a écrit une trilogie là-dessus, alors je suis désolée.
Costa-Gavras, je précise quand même le réalisateur
oui.
Du film.
Je ne me rappelle plus le nom de cet auteur, mais je pourrais vous porter les références la prochaine fois, qui a écrit aussi 3 polars qui traduisent. Cette situation grecque.
Oui, je crois que c'est Marc Harris ou quelque chose comme ça, l'auteur. Juste une question, peut-être un peu en marge, mais vous avez beaucoup évoqué le PIB. Le PIB, c'est vraiment pertinent comme outil de mesure. Si j'écoute un peu Gaël Giraud, que j'aime bien, qui est un de vos collègues économistes, je l'ai entendu en dire beaucoup de mal.
Oui, bien sûr. Il y a lui qui en dit du mal. Il y a aussi des économistes comme Gabriel Colletis, par exemple, aussi,
oui.
Hein, qui vont...
nous avons reçu aussi ici, Gabriel, hein, oui.
Qui vont le critiquer, bien sûr. C'est pour ça que je parle de convention. Il faut bien avoir en tête que lorsqu'on donne des chiffres en tant qu'économiste, il y a des conventions par derrière. Et que ces conventions, puisque ce sont des conventions, elles sont discutables. Qu'est-ce qu'on met dans le PIB ? Et puis, qu'est-ce qu'on met aussi dans la dette ? Parce qu'il y a tout un discours depuis quelques années. Est-ce qu'il ne faudrait pas compter les retraites des fonctionnaires dans la dette, les futures retraites ? Là, on fait exploser la dette. Donc, ce sont que des histoires de conventions. Et c'est pour cela qu'il faut chaque fois remettre les chiffres à leur place.
Et le bouton qui n'est pas... Vous connaissez le bouton,
oui,
ce
oui,
fameux
oui.
Pays donc, qui compte le bonheur, oui. Je crois, dans son PIB.
Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais lui veut s'écarter de cette mesure-là. Et c'est aussi quelqu'un qui... C'est un État qui le critique. Il y a aussi beaucoup... dans toute la mouvance des théories du développement en Amérique latine, de l'écoféminisme, etc. Il y a toute une mouvance aussi qui propose d'autres façons de mesurer la richesse d'un pays. Bon, mais ça,
vous êtes écoféministe ?
Ah oui, à fond. Et puis, tant qu'on est encore dans les chiffres et ces choses-là, il y a aussi quelque chose qui est très important dans la dette, c'est par qui elle est détenue. Parce que, prenons trois exemples, le Japon, la France et la Grèce. Le Japon, 240% de dette par rapport au PIB. Ça ne gêne personne. Pourquoi ça gêne personne ? Parce que la dette du Japon est détenue par les Japonais, entièrement. La Grèce, 100% de la dette grecque est détenue par des étrangers. Alors là, les créanciers étrangers vont pouvoir mettre la pression. La France, 60% détenue par les étrangers. Enfin, ça, c'était juste avant que la Banque Centrale Européenne prenne en charge une grosse partie des dettes. Hein, c'est depuis un an et demi, à peu près. Mais donc, ça aussi, ça, c'est extrêmement important. Qui détient cette dette ?
Alors, cette dette, justement, il y en a certainement différents types. Ce serait bien que vous nous précisiez lesquels pour qu'on se retrouve un peu dans ce maquis.
Alors, donc, quand on parle de dette, tout le monde... Tous les agents peuvent être endettés, bien sûr, il n'y a pas que l'État, il y a la dette privée, hein, la dette des agents économiques.
Dont on dit en France qu'elle est quand même fort lourde.
Elle est fort lourde, mais il y a bien pire.
Il faut toujours regarder le verre à moitié plein, voilà. Effectivement.
Elle est fort lourde, en plus elle a cru ces dernières années principalement, mais la dette privée la plus problématique, me semble-t-il aujourd'hui, c'est la dette des étudiants américains, hein, par exemple, qui est une dette privée extrêmement élevée, et on ne sait pas trop non plus comment l'État américain va pouvoir arriver à la gérer. Il y a une dette dont on ne parle jamais, c'est la dette des établissements financiers. C'est-à-dire, un établissement financier, c'est une institution qui s'occupe de vendre ou d'acheter de la dette. Mais ce sont des institutions, des banques, quoi, pour le dire rapidement, qui peuvent aussi s'endetter auprès d'autres établissements. Encore des chiffres, hein, même si, avec toutes les réserves qu'il faut mettre sur les chiffres. En 2014, la dette de l'État allemand était de 80% du PIB. La dette des établissements financiers allemands, 321%. Même année en France, État français 104% du PIB, institutions financières 279% du PIB. Donc il y a aussi cette chose-là qu'il faut bien avoir à l'esprit. Et puis il y a la dette publique, donc la dette de l'État, des collectivités publiques, des administrations de la sécurité sociale. Donc cette dette... Elle est aussi, on peut la scinder en deux sous-dettes, entre guillemets. Il y a la dette financière, hein, donc qu'est-ce qu'on doit en termes de monnaie, qu'est-ce qu'on doit en capital plus en charge, en taux d'intérêt. Et cette dette financière, elle peut, alors je suis désolée, mais au début le vocabulaire ça va être important, hein, elle peut être soit négociable, soit non négociable. Elle peut être négociable lorsque ça veut dire que cette dette, c'est une marchandise qu'on achète et qu'on vend sur les marchés financiers. Ça, c'est de la dette négociable. Sinon, elle peut être aussi non négociable. Et lorsqu'elle est non négociable, ça veut dire que ce sont des acteurs économiques qui vont être obligés de participer. C'est ce qui s'était produit, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, c'est ce qui s'est produit des années 45 en France jusqu'aux années 60. Tout ça pour dire que donc pour trouver des fonds, il y a plusieurs façons de trouver des fonds. On peut aller les chercher sur les marchés financiers, on peut aller les chercher en empruntant, on peut aussi, le Trésor peut aussi mettre en place des mécanismes. Le Trésor, c'est le comptable de l'État, peut mettre en sorte des mécanismes pour récupérer des fonds, et là, c'est de la dette non négociable. Et dans cette dette publique, donc, il y a la dette financière, dont on parle tout le temps, et il y en a une dont on ne parle jamais, c'est la dette sociale. C'est l'autre facette de la dette de l'État.
La dette sociale, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire, c'est la dette que l'État doit aux citoyens. C'est la dette qui légitime, en quelque sorte, l'existence même de l'État. L'État ne peut jamais se départir de cette dette. Il peut seulement l'honorer en dépenses d'éducation, en dépenses de santé, de services publics, de sécurité individuelle, etc. etc. C'est la dette qui est au fondement de la souveraineté que le peuple a transférée à l'État.
Est-ce qu'elle est quantifiable ?
Alors, quantifiable, on peut mesurer, si vous voulez, les dépenses que font les États, justement, dans cette dette sociale, en matière de santé, d'éducation, de sécurité, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir que cet aspect de la dette, qui est la dette sociale, ça renvoie aussi à l'utilisation de l'endettement. À partir du moment où la dette de l'État a aussi une facette sociale, ça veut dire que lorsque l'État s'endette, il faut que ça passe par le débat démocratique. Il faut que les citoyens soient d'accord avec le type d'endettement qui est engagé. Par exemple, on le voit aujourd'hui hein, par rapport à la crise sanitaire. Le choix qui a été fait, ça a été de mettre énormément de financement dans la recherche, de vaccins, etc. Mais on aurait pu aussi dire, eh bien, on va s'endetter pour ajouter des lits dans les hôpitaux, pour payer mieux les infirmiers, etc. etc. Donc il y a aussi ce volet-là qu'il faut entendre. Et puis, il y a encore une expression sur laquelle j'aimerais revenir, c'est la dette souveraine. Aujourd'hui, on parle de dette souveraine. Alors ça, tout à l'heure, on parlait de rhétorique et de langage. C'est une expression qui a été inventée par les institutions financières. Et ça entraîne, si vous voulez, une inversion de hiérarchie, comme si c'était la dette qui devenait souveraine et plus l'État. La priorité, donc, ça va être d'honorer cette dette donc, souveraine.
Ça veut dire qu'il y a des dettes qui sont plus, comment vais-je dire, que d'autres, plus importantes, plus fondamentales que d'autres. Il y a une hiérarchie dans les dettes.
Oui, alors, certes, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie puisqu'on va à chaque fois choisir quels sont les créanciers qu'on va rembourser en premier, si on rembourse la dette, quels sont les types d'endettement que l'on va avoir. Mais tout ce discours-là, il doit tout de même passer par des relais politiques. Ils doivent être discutés.
Ça, c'est la théorie, parce que quand vous avez un président qui décide, et pourquoi pas, hein, c'est pas une critique, de mettre beaucoup d'argent quoi qu'il en coûte, c'était sa formule, je pense pas qu'il ait interrogé le Parlement, qui de toute façon, compte tenu de la large majorité dont il dispose et le fait qu'on y discute très peu, l'aurait suivi. Donc la démocratie, oui, on a des jolis mécanismes démocratiques qui restent théoriques mais qui ne sont pas appliqués.
Oui, et du reste, ce que vous soulignez, ça relève parfois de la dette illégale, parce que les dettes, ou de la dette illégitime, pour qu'une dette, normalement, hein, soit légitime, il faut qu'il y ait un passage par le Parlement. Ça s'est produit notamment avec la Grèce. Bon, là, c'est l'État français qui décide directement, mais... comme il est dans une situation d'urgence, il le fait ainsi. Mais par exemple, si on regarde la dette de la Grèce, certains endettements grecs qu'il y a eu dans les années 2010, eh bien, une partie des dettes sont des dettes illégitimes ou illégales parce qu'elles ne sont pas passées par une discussion au sein du Parlement.
Il y a quand même une notion un peu de moralité. On est dans le judéo-chrétien. Là, la dette, c'est mal, finalement, d'avoir des dettes. Il faut les rembourser. Qui paye ses dettes s'enrichit. C'est un peu, hein, c'est ce que disait Charles Trenet tout à l'heure, paye tes dettes. Il y a cette pression morale sur la dette.
Oui, il y a cette pression.
Qui vient rajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec la technique.
Oui, tout à fait. L'anthropologue David Graeber, dont j'ai mis la référence sur le site de la radio, dit un débiteur, c'est toujours une sorte de criminel. Il faut toujours rembourser ses dettes. On a une pression morale sur le remboursement des dettes. C'est pour ça que chaque fois, on dit, mais il faut toujours rembourser ses dettes.
Est-ce que ce n'est pas criminel aussi de pousser les gens à s'endetter pour après, les, entre guillemets, les tenir quelque peu?
Voilà. Alors, c'est pour cela qu'il y a toute une série de qualificatifs qu'on a rajoutés au mot « dette » pour la qualifier. On a parlé, par exemple, de dette insoutenable. Ça, les dettes qui ne peuvent pas être remboursées, ce sont les dettes insoutenables, les dettes illégitimes, les dettes odieuses et les dettes illégales. Les dettes insoutenables, ça veut dire que si l'État rembourse, il ne peut pas assumer la dette sociale, hein, c'est-à-dire les obligations de l'État en termes de droits fondamentaux pour sa population.
C'est là que le FMI arrive et qui vous dit, bon, moi je te prête, mais c'est moi qui vais diriger le pays, qui vais donner les grandes options et tu feras comme je te dis.
Oui, bien sûr.
Et là, c'est illégitime parce qu'on ne passe plus par une... plus de démocratie.
Il n'y a plus de démocratie. Hein. Donc oui, tout à fait. C'est la Banque Centrale Européenne qui, en ce moment, propose des subventions. Mais en contrepartie, il faudra revoir le système de retraite, hein, par exemple. Peut-être on en reparlera. Après, il y a les dettes illégitimes, c'est-à-dire celles qui sont faites contre l'intérêt général. Ça aussi, un grand ensemble de dettes. Il y a des dettes odieuses. Ça, ce sont des dettes qui ont été faites par des dictateurs ou contre les intérêts de la population. Alors, pour les Français, la dette la plus typique, c'est la dette de Haïti, hein, puisque l'État français a demandé à Saint-Domingue, hein, quand il est devenu Haïti, au moment de l'indépendance, en 1793, l'indépendance. Donc, l'État français, en 1825, a mis toute une série de navires devant la côte haïtienne et leur a dit, maintenant, vous nous dédommagez pour notre perte de propriété. La propriété en question, c'était les esclaves.
Oui. Hein?
Donc, Haïti a dû payer une dette à la France de 150 millions de francs or. Hein,
ça s'appelle un peu du racket.
Ça s'appelle une rançon. Alors, vous avez beaucoup d'économistes comme Toussaint ou comme Piketty qui disent qu'il faut rembourser cette rançon. Il y a des États qui l'ont fait, hein, ceci dit. Alors, c'est comique parce qu'on n'est pas haïtien, mais quand Hollande, en 2015, va à Haïti et dit « on va vous rembourser notre dette morale », la dette morale, elle n'est pas remboursable, hein, c'est la dette financière.
Ah, mais M. Hollande est très porté sur la finance. « Mon ennemi, c'est la finance », disait-il. « Mon ennemi, c'est la finance ».
Et puis, voilà, et puis il y a encore un autre type de dette qu'on ne doit pas rembourser, c'est les dettes illégales, donc celles qui ne respectent pas le droit des contrats. Hein. Par exemple, quand BNP Paribas fait une dette, fait des emprunts en francs suisses sur des titres toxiques. Bon, voilà. Donc il y a toute une série comme ça de dettes qu'on n'a pas forcément à rembourser, qui ne sont pas moralement à rembourser. Alors l'exemple type qu'on sort souvent, parce que c'est les Grecs qui disent « Mais attendez, vous n'avez aucune compassion envers nous, enfin aucune aide, mais pourtant vous, les Allemands, en 1953, qu'est-ce qu'on a fait ? On a supprimé la moitié de votre dette, on a rallongé vos échéances pour que vous puissiez vous redresser. » D'ailleurs, c'est comme ça que l'Allemagne a pu se redresser. Bon, c'est l'exemple de l'Équateur en 2007 qui va décider de ne pas rembourser une partie des dettes qu'il considère comme illégitimes. C'est la même chose en Islande, etc. Donc là, il y a toute une série aussi de dettes qui ne sont pas forcément remboursables.
Alors si on revient, Anisla, sur la dette publique française qui s'élève aujourd'hui à 2 milliards 700, hein, c'est ça
2700 milliards.
2700 milliards, voilà, le chiffre est tellement gros que j'ai un peu de mal à me le représenter, ce qui fait 118% de ce fameux PIB fin mars. C'est quand même un chiffre qui paraît tout à fait considérable, un chiffre en lui-même ça ne veut rien dire, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là?
Alors il faut bien voir que la dette de la France, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est le résultat d'une volonté délibérée, d'un choix politique. Si je remonte...
Donc elle serait légale, cette dette.
Je ne sais pas si elle a été discutée, mais en tout cas, à chaque moment, elle a été... Donc, c'est un mouvement qui a été choisi par des gouvernements élus, hein, bien sûr, par les Français. Si je remonte, parce qu'aussi il faut mettre en perspective historique, hein, pour comprendre l'économie, si on remonte à partir de la Seconde Guerre mondiale, hein, 1945, donc vous avez toute une série de lois qui vont nationaliser la Banque centrale, nationaliser les banques commerciales, et René Pleven donc, va mettre en place ce qu'on appelle le circuit du trésor. Il met aussi en place des lois qui séparent les banques entre banque de dépôt et banque d'affaires. C'est-à-dire que les banques ne pouvaient plus emprunter, ne pouvaient plus utiliser le dépôt des épargnants pour aller spéculer, ce qui avait créé la crise de 29. On a le même type de loi en 1933 aux États-Unis. Bon. Donc, au sortir de la guerre, en France, on met en place ce qu'on appelle le circuit du trésor. Donc, ce circuit, c'est un réseau, si vous voulez, de déposants et d'épargnants, ce qu'on appelle les correspondants du trésor, qui sont des particuliers, des institutions bancaires, bon, et qui doivent déposer une partie de leurs avoirs auprès du trésor. Si bien que le trésor va pouvoir utiliser, alors le trésor, c'est le comptable de l'État, hein, c'est l'État, va pouvoir utiliser ses fonds pour financer la reconstruction. Il peut aussi emprunter un peu à la Banque centrale, d'autant qu'elle est nationalisée. Bon. Donc, on a ce circuit-là. Mais comme c'est le trésor qui prête à l'État, en fait, c'est l'État qui prête à l'État. Donc, il n'y a quasiment pas d'endettement. À cela se rajoute une croissance importante, hein, puisqu'on transforme la consommation de guerre en consommation de masse.
Il y en arrive aux 30 glorieuses.
Voilà, plus un taux d'inflation important. Bon, ce qui fait que... l'endettement ne pose pas problème. Et petit à petit, à partir des années 60, on va voir émerger un discours économique, une orthodoxie économique, une orthodoxie monétaire, qui va avoir pour objet en permanence de dire pour que l'État agisse correctement, pour qu'il agisse normalement, il faut qu'il agisse comme n'importe quel acteur économique. Acteur économique privé. Donc, il faut qu'il ait les mêmes conditions que les autres, ou quasiment les mêmes conditions que les autres. Et donc, on va se focaliser sur le détricotage tout ce qui a été mis en place. Alors, pour prendre une citation de Jean-Yves Haberer, qui était inspecteur des finances à l'époque et directeur du Trésor, et qui va être un acteur extrêmement important de ce démantèlement, il disait, donc je le cite, il va falloir démanteler tous ces mécanismes automatiques qui font que le trésor, sans bouger le petit doigt, est irrigué de liquidités qui lui arrivent de tous les circuits financiers. Donc petit à petit, on va mettre en place des lois 1966-1967, de Cré, Debré, Haberer, etc., qui vont détricoter ce système-là. Bon, on pourra revenir plus en détail si vous le souhaitez. On va, à partir des années 70 en France, 74, Giscard d'Estaing, commencer à réduire la possibilité pour l'État d'emprunter à la Banque centrale. Traité de Maastricht, on va carrément l'interdire. On va rendre les banques centrales indépendantes. Alors, indépendantes du pouvoir politique. Peut-être elles ne sont pas si indépendantes que ça du pouvoir économique. Mais quand on dit indépendantes, c'est du pouvoir politique. Les années 80, on va créer les banques universelles, c'est-à-dire on remet ensemble les banques de dépôt et les banques d'affaires.
Qui a été une grande stupidité dont nous payons aujourd'hui très cher les conséquences.
Les conséquences. La crise des subprimes a été permise aussi grâce à cela. Alors, en 2014, il y a eu un projet de loi. Il y a eu des discussions au niveau européen, mais Macron, qui était alors ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, s'est opposé à une reséparation des banques. Ce qui va se produire aussi, donc, vous voyez, on a donc un détricotage des lois. Ce qui va se produire aussi, c'est qu'à partir des années 80, principalement, on va... Alors, je vais utiliser un gros mot économique. On va titriser la dette de l'État. Ça veut dire qu'on va transformer la dette en titre financier. Ou si je le dis encore autrement, ça veut dire que la dette devient une marchandise. La dette de l'État devient une marchandise que l'on achète et que l'on vend sur les marchés financiers. Si on l'achète et qu'on la vend... Ça veut dire aussi que le prix de la dette, hein, quand on a besoin d'argent, le prix que l'on paye, c'est le taux d'intérêt. Et donc, les taux d'intérêt vont exploser. La charge de la dette va exploser. Et c'est pour ça qu'on voit des dettes exploser à partir des années 80. Hein? C'est dû principalement à la charge. Si on regarde les dépenses de l'État, notamment de l'État français, les dépenses n'augmentent pas tant que ça. Par contre, la charge de la dette, elle, elle explose. À cela, vous rajoutez l'épisode des subprimes, plus le refinancement des banques. Donc les États vont être obligés de refinancer les banques, c'est-à-dire de s'endetter pour refinancer les banques. L'endettement va encore exploser.
Et on met le Covid et voilà, et on a inventé le mouvement perpétuel.
On a inventé le mouvement perpétuel et une dette qui s'auto-entretient en permanence, qui gonfle et qui s'auto-entretient en permanence.
Alors, bon, l'heure passe très vite, vous savez comment ça fonctionne, Anne. On va peut-être terminer sur ce chapitre, mais il y a quand même quelque chose, une question qui a agité beaucoup la classe politique et même au-delà. Est-ce qu'il faut la rembourser, cette dette? Est-ce qu'il faut l'annuler? Qu'est-ce qu'on en fait maintenant qu'on l'a sur les bras?
Alors, est-ce que c'est la bonne question? Est-ce qu'il faut rembourser la dette? Est-ce que c'est la bonne question? D'abord, une dette d'État n'est jamais remboursée. Hein? Chaque fois qu'un titre arrive à échéance, on réemprunte et en fait, on roule la dette. On roule la dette en permanence. Donc déjà, la première question, est-ce qu'on rembourse? Si on parle de remboursement ou de désendettement, est-ce que toutes les dettes en font partie? Est-ce que les dettes qui ont été créées par la spéculation, par exemple, hein, qui ont fait augmenter les taux d'intérêt, je pense notamment à des pays comme la Grèce, l'Italie, l'Irlande, etc., est-ce qu'on est obligé de les rembourser? Qui on rembourse? Bon, il y a toutes ces questions-là. Est-ce que c'est vraiment un problème, la dette? Si la dette... ça, c'est notamment le cheval de Benjamin Lemoine, hein, que j'ai cité aussi. Si la dette finance des baisses d'impôts au bénéfice des détenteurs de patrimoine, bon, elle va aboutir à une redistribution des plus pauvres vers les plus riches. Peut-être c'est pas la dette qui fait le plus de cohésion sociale.
C'est le ruissellement à l'envers, enfin, une théorie de ruissellement qui n'a jamais marché nulle part, nous le savons.
Mais voilà, il y a plutôt la théorie de l'osmose qui marche. Donc, au contraire, si on fait des investissements sociaux à destination des plus démunis, des plus pauvres, des services publics, donc là, est-ce que la dette est un problème lorsque l'État est un investisseur, en fait, c'est ça. Quand l'État est un investisseur, est-ce que c'est un problème? Alors, comment sortir du surendettement? Il y a beaucoup de solutions hein, qu'on pourrait aussi... compléter, enfin qu'on pourrait articuler. Bien sûr, il y a l'imposition des plus riches, parce que dans la dette, il y a aussi les recettes, on n'y pense jamais, donc imposer peut-être les 1% les plus riches, arrêter, essayer de contrer l'évasion fiscale, il y a des solutions hein, que proposent les économistes, 80 milliards d'euros par an hein, pour la France.
Bon. Oui, là, on n'est pas tellement armé aujourd'hui pour la combattre, manifestement. Lorsque l'on voit, par exemple, que certaines sociétés nationales ont leur siège social à l'étranger, au Luxembourg, à Bruxelles ou ailleurs, on peut se poser quand même des questions.
Oui, on peut se poser des questions, mais techniquement, il y a toute une série d'économistes et de comptables qui ont fait des propositions pour désarmer hein, les paradis fiscaux, pour faire en sorte que si on changeait le mode d'imposition des sociétés, eh bien, on pourrait... lutter contre ces paradis fiscaux, au final, ça ne vaudrait plus le coup, en quelque sorte, pour les entreprises d'aller vers ces paradis fiscaux.
On a vu quand même que chaque fois qu'il y a eu des révélations sur les paradis fiscaux, c'est le fait de groupes de journalistes, et que les États n'ont jamais été moteurs dans cette question, alors qu'ils ont des moyens assez importants. Il y a des services de renseignement, hein, si on veut avoir... Alors, si les journalistes arrivent à se procurer un certain nombre de sources... et de sources extrêmement importantes et tout à fait révélatrices, j'imagine que les services de renseignement des États le pourraient aussi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté politique de casser la fraude fiscale.
Non, il n'y a pas de volonté politique parce qu'il y a un pouvoir de pression, parce que l'économie, c'est aussi des relations de pouvoir. C'est ça, l'économie. Hein. Ce n'est pas des chiffres. Enfin, les chiffres, c'est vraiment...
La traduction.
Oui, mais c'est vraiment des relations de pouvoir. Et le pouvoir aujourd'hui, le pouvoir est aux mains du capital financier. Bon, après, il y a toute une sorte de... Il y a d'autres solutions. Il y a l'inflation, hein, l'euthanasie des rentiers, comme disait Keynes. Bon, on est encore dans l'orthodoxie monétaire, donc je ne sais pas si on va y arriver. Bon, on peut remettre des dettes ou une partie des dettes comme on a fait pour l'Allemagne. Il y a des économistes, il y a eu une tribune de 150 économistes qui ont proposé de supprimer la dette détenue par la Banque Centrale Européenne en contrepartie d'investissements écologiques. Bon, c'est peut-être une bonne idée. En même temps, aujourd'hui, pour moi, ça pose un problème démocratique parce qu'aujourd'hui, c'est l'écologie et après, on pourrait imposer d'autres choses. Bon, il y a la croissance aussi. Hein. Si la croissance redémarre, eh bien, la dette diminue. Mais bon, on est en période de stagnation. Bon, sauf si ce que dit le gouvernement va se révéler vrai. Les politiques d'austérité, bel échec en 2011. Hein. On a vu que c'était un bel échec puisqu'on a renoncé ainsi à des recettes. Du reste, le FMI dit attention, il ne faut plus remettre des politiques d'austérité. Donc, rouler la dette, hein, rouler la dette en permanence en maintenant des taux d'intérêt très bas.
C'est rouler le citoyen, rouler la dette ?
Rouler la dette, c'est-à-dire la racheter en permanence et en essayant de faire en sorte que les taux d'intérêt soient les plus bas, voire
négatifs. Ce qui fait qu'on gagne de l'argent en s'endettant.
Ben oui, si votre taux d'intérêt négatif, souvent quand on utilise cette expression, c'est le taux d'intérêt réel, hein, c'est-à-dire ça veut dire que le taux d'intérêt est plus petit que le taux d'inflation. Donc on a toute une série de mesures qui seraient possibles. Le problème, ça va être la capacité des politiques à créer des compromis, hein, à trouver des solutions. C'est compliqué. Alors, on pourrait aussi, parler un peu de ce qui se passe, j'en ai pour une minute.
Allez, une petite minute.
Aujourd'hui, hein, on voit ce qui se passe au niveau européen. Donc, on a ce qu'on appelle les assouplissements quantitatifs, des rachats de la Banque centrale. On a aussi des subventions de la Banque centrale européenne pour les États. Mais il y a souvent des contreparties, notamment au niveau des retraites. Et puis, ces facilités, elles ne sont jamais faites pour désarmer justement le pouvoir de la finance. C'est chaque fois un peu plus de prérogatives pour le privé, pour que le privé trouve des solutions. Et à mon avis, c'est en cela que ça ne va pas être une véritable solution.
Bien, on va se reposer de cet exposé fort clair et qui nous permet peut-être de mieux comprendre la dette, son périmètre et ses conséquences. Moi, j'ai fait un choix, on va rester dans les institutions financières, j'ai fait le choix de vous chanter, pas moi, hein, mais rassurez-vous, les goguettes en trio mais à quatre que j'aime bien passer sur cette antenne. On va écouter la chanson HSBC, une institution financière qui vient de se débarrasser de ses clients français en les vendant à un organisme, je crois, une institution américaine. Voilà, donc on va écouter comment les goguettes en trio mais à quatre voient le HSBC.
Ça va ?
J'avais déjà ma Rolex à l'âge de 4 ans. Ma croissance dépassait les 5%. Dans la cour, je refourguais dégoûté de contrebande au grand. Je planquais mes magouilles, mais à 10 ans, je connaissais mon premier redressement. Aujourd'hui, j'ai grandi, mais j'ai gardé mon âme d'enfant. Maintenant, j'ai un compte à la HSBC. Maintenant, j'ai un compte à la HSBC. Occupe-toi de tes oignons, t'occupe pas de mon pognon. Viens pas foutre ton nez dans mon fric. Viens pas foutre la merde à la HSBC. Viens pas foutre la merde à la HSBC. À Genève, moi je suis nourri, logé, blanchi. La brosse à dents dans ma valise. Mon blé, il ne manque à personne, il est à moi. Je le mérite, je le planque, c'est mon droit. Je donne la charité, oui, mais à qui bon me semble. On va quand même parfiler tout ça à l'État qui balance des allocs à tour de bras à tous ces demeurés qui déposent tout à la poste. Ils avaient qu'à être à la HSBC. Ils avaient qu'à être à la HSBC. Mais ils sont trop benets. Je crois Gad Elmaleh quand il conseille la LCL. Je m'en fous de tes services publics. Avec mon fric, je me fais soigner dans les meilleures cliniques. De toute façon, mourir, c'est devenu un truc de pauvre. Et puis, j'ai mon avion privé, alors les prix des billets de TGV, ça me passe en dessous. Je vais pas covoiturer, même avec Mohamed 6. à ce qu'on s'amuse à la HSBC, à ce qu'on s'amuse à la HSBC. Viens pas gâcher la fête, touche pas à ma cassette, avec tes listings du Swiss Leaks, tout le monde soutient la HSBC. On est Charlie, on est HSBC. Financiers prolétaires, on est tous solidaires, que personne ne touche à notre fric, parce qu'on s'amuse à la HSBC.
Voilà, HSBC, mon choix. Vous nous retrouvez sur Economica avec Anisla, Jacques Lavergne. Notre émission tire vers la fin, donc l'heure a largement sonné de nos rubriques de fin. D'abord, un mot sur l'économie en Occitanie. Alors, l'économie en Occitanie, ben, vous savez qu'elle est relativement dépendante, parce qu'il n'y a quand même pas que ça en Occitanie. Notamment, le secteur agricole et agroalimentaire est extrêmement fort, mais l'aéronautique est quand même prépondérant. Donc, le moteur Airbus, est-ce qu'il tourne encore ? Eh bien, il faut savoir que en 2019, le secteur aéronautique faisait vivre 700 entreprises et plus de 110 000 salariés dans la région. C'est quand même assez considérable. Et la crise sanitaire, bien sûr, a conduit l'État à déployer un plan de soutien qui n'est pas négligeable, qui est de 15 milliards d'euros, qui se compose de prêts bancaires garantis, de mesures de chômage partiel, de financement de l'activité partielle de longue durée. Et l'Occitanie, notre région, a également mis la main au portefeuille, puisque Carole Delga, notre présidente, a débloqué 100 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Et avec ces amortisseurs, eh bien, le crash industriel tant redouté a été quand même limité. On a supprimé uniquement, si je puis dire, mais c'est déjà trop, 6 250 postes en 2020. Et depuis juillet 2021, il semble qu'Airbus montrerait des signes encourageants de reprise. Si on veut bien regarder ses prévisions de livraison, les cadences de production qui sont remontées, notamment sur l'A320 qui est le produit phare de la maison. Et si on écoute M. Seigneret, vous savez, c'est un groupe qui est directeur administratif et financier d'un groupe qui a son nom et qui l'a fondé, qui est installé près de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Bien, il trouve que c'est une bonne nouvelle, mais pour lui, ce n'est pas très suffisant. C'est un usineur, hein, la société Seigneret, un assembleur de pièces pour l'aérostructure. Il pense que les premiers effets de ce rebond que l'on annonce ne se feront sentir que vers la fin 2022, ce qui reste quand même assez loin. Voilà pour ce qui est de l'Occitanie, d'une des locomotives de l'Occitanie, l'aéronautique. Venons à notre dernière rubrique, le conseil culturel. Anne, de quoi vous voulez nous parler ? Qu'est-ce que vous voulez nous conseiller ?
Eh bien, deux ouvrages qui ne sont pas des ouvrages d'économie. D'un sociologue sur la dette, Benjamin Lemoine, L'ordre de la dette. Enquête sur les infortunes de l'État et la prospérité du marché, donc qui retrace tout ce détricotage dont je parlais tout à l'heure sur ce qui s'est passé donc après la Seconde Guerre mondiale. Et puis l'ouvrage de l'anthropologue David Graeber, Dette 5000 ans d'histoire. Alors lui, pour le coup, il revient sur ce qu'est la dette, quand est-ce qu'elle apparaît. En fait, elle apparaît en même temps que la monnaie.
Il est passionnant, Graeber. Et c'est clair, voilà. C'est compréhensible par tous. Hein.
Et puis, il détricote un mythe qu'il y a chez les économistes qui je trouve, est prégnant. C'est le mythe du troc. La monnaie n'a jamais remplacé le troc. Et il le décrit extrêmement bien. La monnaie, elle apparaît en même temps que les dettes.
Alors moi, vous aurez de quoi lire, hein. Moi je vais vous conseiller, deux, tiens. D'abord en premier aux éditions Luxe, Les conséquences du capitalisme, sous-titré Du mécontentement à la résistance, a été écrit par Noam Chomsky et Marv Waterstone, qui sont deux universitaires américains, comme leur nom l'indique un peu, qui font un cours ensemble, deux cours qui se répondent. Alors il y a une citation, je vous la donne. Le Covid-19 a révélé des défaillances flagrantes et de terribles injustices dans le système capitaliste actuel. Cette situation représente à la fois une crise et une possibilité. Tout dépend des actions que les gens choisiront de mener. Fermez les guillemets. Chomsky et Waterstone disent, si nous voulons ébranler, voire abolir les structures capitalistes qui menacent aujourd'hui toute vie sur la planète, eh bien, il faut commencer par réévaluer les outils que nous utilisons pour interpréter le monde. Peut-être que Anne en parlait de ce PIB dont il faudrait peut-être changer périmètre et définition. Voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il faut faire. C'est un ouvrage, je l'ai lu, Donc tout le monde peut le lire, hein, je ne suis pas économiste, c'est un ouvrage qui est très didactique et qui est très, on dirait punchy, je vais dire incisif, et qui est une véritable leçon d'autodéfense contre l'hégémonie contemporaine et le réalisme capitaliste. Et puis un dernier livre, alors Anne va fermer ses oreilles parce que sinon elle va être toute rouge, c'est son dernier livre, Anisla, l'histoire des faits et des idées économiques, le pluralisme des idées chez Ellipse. Vous verrez, c'est tout à fait passionnant, c'est très renseigné, mais vous avez entendu l'auteur, donc vous pouvez vous imaginer. La teneur du livre, Anne, on est arrivé à la fin. Voilà, c'était donc Economica, une émission d'Anisla et de Jacques Lavergne, avec à la réalisation Tiffaine Lemay. Vous pourrez bien sûr retrouver le podcast de cette émission ainsi que tous les autres podcasts sur le site d'Esprit Occitanie. Alors à bientôt pour une nouvelle édition d'Economica. Je crois que la prochaine fois, Anne...
Oui, j'aimerais peut-être parler de propriété et de commun.
Voilà, on expliquera ce que c'est les communs, qui est une notion qu'il faut effectivement démystifier. Donc à très bientôt pour cette nouvelle édition où le sujet central, vous l'avez entendu, sera propriété et commun. Belle journée à toutes et à tous. Au revoir Anne.
Au revoir.
Au revoir à toutes et à tous.